Bonjour Manuel Cervera-Marzal, vous êtes sociologue, chercheur à l'EHESS, auteur notamment des nouveaux désobéissants, citoyens ou hors-la-loi. On va évoquer ces conflits sociaux, je les mets au pluriel, cheminots, éboueurs, pilotes, électriciens, gaziers et également étudiants. Et j'aimerais tout d'abord qu'on parle avec vous des étudiants. On a entendu donc ce pastiche plutôt amusant. Que pensez-vous aujourd'hui de la situation dans les facultés? Que réclament ces étudiants qui font grève?
Ce qui est intéressant, c'est que ces étudiants qui font grève, ils sont pas simplement en lutte contre la prochaine loi sur l'éducation supérieure qui concerne effectivement des aspects qu'on peut juger un peu anecdotiques comme les rattrapages, la compensation entre les yeux. Non, c'est une contestation beaucoup plus large qui pointe le fait que depuis 2009, par exemple, il y a 320 000 étudiants en plus dans les universités françaises, mais en parallèle, on a supprimé 7 000 postes d'enseignants, tout simplement. Donc on a des amphis qui sont surchargés, surpeuplés, on a de moins en moins de moyens. Il y a une dynamique vraiment de long terme en fait qui est contestée. C'est pas simplement la politique éducative d'Emmanuel Macron, c'est vraiment la mise en concurrence des universités, la raréfaction des moyens et le fait du coup qu'aujourd'hui étudier, on le voit dans tout un tas d'universités où vraiment les fenêtres tombent en lambeaux, les amphithéâtres sont dévastés. Et bien aujourd'hui, étudier, c'est devenu de plus en plus compliqué en France.
Et alors, justement, quelles seraient les priorités d'après ce que vous entendez, d'après ce que vous pensez, puisque vous avez une certaine sympathie pour ce mouvement, Manuel Cervera-Marzal?
Les priorités, les priorités du mouvement étudiant, tout simplement, hein, c'est de redonner les moyens aux enseignants de pouvoir exercer dans des conditions décentes, c'est de pouvoir aussi sortir de cette situation vraiment de concurrence généralisée où on crée un enseignement supérieur à deux vitesses, à trois vitesses. Il y avait quand même un principe qui était relativement sacré en France depuis plusieurs décennies, c'était celui de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Et là, aujourd'hui, on est dans une dynamique gouvernementale qui est celle de la sélection. Alors, ils veulent pas employer le mot, mais il y a bien que les ministres aujourd'hui qui refusent d'employer ce mot de sélection. Mais c'est vraiment cette idée, hein, aujourd'hui, de demander à des élèves qui ont à peine 15 ans de déjà savoir quel métier ils voudront faire dans 10 ans. Donc à 15 ans, ils doivent savoir quelle offre professionnelle ils vont choisir plus tard. Ils doivent savoir quels sont les attendus. Et donc en fait, on est dans cette espèce de culture de la précocité où il faut tout de suite savoir ce qu'on veut faire. On n'a plus le droit de tâtonner, d'hésiter, d'aller voir à droite et à gauche. Et ça, en fait, cette injonction à choisir très tôt, en fait, vous êtes encore adolescent et vous devez déjà penser à votre employabilité sur le marché, on sait que ça bénéficie aux plus aisés, en fait, à ceux qui ont les parents derrière qui vont leur permettre de les orienter dans ce monde, dans ce dédale.
Dans ce dédale de formation. Alors donc ça, c'est un conflit auquel vous contribuez en tant qu'universitaire, Manuel Cervera-Marzal, que vous étudiez. Et puis, il y a aussi l'autre conflit, celui qui débute aujourd'hui et qui attire la plupart des regards, c'est le conflit à la SNCF. Et là aussi, j'aimerais avoir votre analyse sur ce qui est en train de se dérouler.
Oui, alors on a beaucoup parlé du statut des cheminots, mais à nouveau, là, c'est le gouvernement essaye d'attirer l'attention sur cette question du statut des cheminots pour dire c'est des privilégiés, tout comme avant on a dit que les retraités c'était des privilégiés parce que leur pouvoir d'achat avait augmenté, les enseignants c'est des privilégiés parce qu'ils ont plus de vacances. On connaît ce discours qui consiste à dresser certains travailleurs contre d'autres. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que la lutte des cheminots aujourd'hui, elle concerne beaucoup plus que le seul statut des cheminots eux-mêmes. Et d'ailleurs, il faut préciser au passage que les cheminots qui sont en grève, ils se mobilisent pas pour eux, ils se mobilisent pour les prochains embauchés à la SNCF. Donc déjà, là-dedans, il y a une dimension altruiste, si vous voulez. Mais ce qu'ils défendent au-delà du statut des cheminots, c'est le statut tout simplement du service public, en fait, le statut du transport public. Et là, on a des précédents quand même en termes de libéralisation et puis de privatisation, puisque à terme, c'est ça l'objectif. On a vu, on a privatisé il y a quelques, une ou deux décennies, tout un tas de régimes municipaux au niveau de l'eau. On a vu les catastrophes que ça a causé. Aujourd'hui, la plupart des villes sont en train de revenir là-dessus et de remunicipaliser l'eau. En Angleterre, ils ont privatisé aussi le rail et vous savez ce que ça a causé en termes de hausse des prix des billets, absolument phénoménale, en termes de retards aussi qui se sont multipliés et d'accidents. Donc là, il s'agit simplement de défendre le service public. Donc c'est une cause qui est nationale. On est loin d'être sur une espèce de petite repli corporatiste des cheminots qui seraient les grands nantis de ce pays, comme le prétend le gouvernement.
Il y a une vision très très clivés de ce conflit social à la SNCF dans la presse ce matin. Disons qu'il y a, pour le dire assez rapidement, la presse de gauche qui est plutôt favorable aux cheminots, tandis que la presse de droite, elle, considère qu'il y a une manœuvre, une sorte de volonté de faire grève et d'empêcher toute forme de réforme. Est-ce que vous êtes hostile à toute forme de réforme? Est-ce que vous pensez, Manuel Cervera, Marzal, qu'il y a aujourd'hui chez les cheminots une opposition en fait au changement, que ce sont les nouveaux conservateurs?
Non, je pense que ni moi ni les cheminots ne sont hostiles aux réformes. Le problème, c'est que, si vous voulez, ce mot réforme, il faut peut-être l'interroger, parce que au début du XXe siècle, quand on parlait de réforme, c'était une idée du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste. Faire une réforme, ça voulait dire aller vers plus d'égalité, vers plus de justice, vers plus de progrès social. Et il y a eu un grand tournant au début des années 80, qui est que les néolibéraux du type Reagan, du type Thatcher, et puis en France, c'est un socialiste, François Mitterrand, qui a décliné ça, ont opéré un retournement de sens, vraiment à 180 degrés de ce mot réforme. Réforme aujourd'hui, c'est devenu synonyme de régression sociale. En réalité, quand on parle de réforme aujourd'hui, on parle de contre-réforme. Il s'agit de revenir sur des acquis sociaux. Et d'ailleurs, à ce titre-là, c'est intéressant de remarquer que quelqu'un qui, en France, est né dans les années 1970, n'a jamais entendu probablement aussi autant de fois de sa vie ce leitmotiv de « la France est irréformable ». La France est irréformable, c'est le grand discours des éditorialistes de droite que vous citiez à l'instant. Et pourtant, on a l'impression que tous les 6 mois en France, on passe des réformes, des contre-réformes néolibérales. Et alors là, le rythme s'est accéléré de manière assez impressionnante avec Emmanuel Macron qui, lui, c'est une réforme par jour. Voilà. C'est du jeu. Je ne sais pas si vous êtes fan de tennis éventuellement. Vous vous rappelez, alors
pas
peut-être de stratégie militaire. Vous voyez la blitzkrieg. La blitzkrieg, voilà, c'est cette idée de on va frapper dur, on va frapper
quand même
fort.
Le tennis.
Alors vous voyez John McEnroe, les montées au filet. Voilà, on assaille l'adversaire, on l'asphyxie, on lui laisse pas le temps de respirer. C'est vraiment une réforme par jour sur la formation professionnelle, sur les retraites, sur la justice, sur le transport, sur l'éducation. Et comme ça, qu'est-ce qu'il réussit à faire Emmanuel Macron? Il réussit, en tout cas c'est son pari, à déboussoler ses adversaires, à les laisser comme ça un petit peu sans repère, en état de sidération. Et ça lui permet d'avancer à toute vitesse, tel un rouleau compresseur.
Manuel Cervera, Marzal, vous êtes sociologue. Il y a une longue tradition d'analyse du conflit social chez les sociologues. Il y a certains sociologues qui considèrent que le conflit est non seulement inévitable, mais même souhaitable au sein d'une société. Qu'est-ce que votre regard de sociologue peut nous apprendre sur la situation actuelle que ne dirait pas justement un éditorialiste, puisque souvent les éditorialistes sont assimilés à des fervents partisans de la réforme, vous le dites avec cet aspect péjoratif que vous attachiez tout à l'heure à la réforme.
Oui, je sais pas, une chose par exemple qui est beaucoup discutée aujourd'hui par les éditorialistes, parce qu'ils semblent la craindre, c'est est-ce qu'on va revivre mai 68 ou est-ce qu'on va revivre les grèves de 95. Voilà, il y a cette espèce de spectre des grands mouvements sociaux. Et quelque chose qu'on peut voir en tant que sociologue, c'est qu'en réalité, alors bien sûr, il y a comme un fil souterrain qui relie les grands moments de soulèvement des travailleurs, de soulèvement de la jeunesse étudiante. On voit des similarités, ne serait-ce que dans les formes d'action, l'occupation des universités. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il y avait en 68, qu'il y avait en 95, et puis là on parlait de Tolbiac tout à l'heure. Donc il y a des continuités, mais en même temps, ce qu'on apprend quand on regarde les choses en tant que sociologue, c'est qu'il y a toujours aussi de la singularité, il y a toujours de l'invention.
Où est-elle justement la singularité?
Là on est au début du mouvement, on attend justement de la voir, les possibles sont en train de s'ouvrir. Mais je vous donnerai simplement un exemple. Rappelez-vous, Nuit Debout, c'était il y a seulement 2 ans, et on a vu apparaître ce nouveau mode d'action qui consistait à se réunir sur les places publiques plutôt qu'à se réunir à l'intérieur des entreprises ou à l'intérieur des universités comme on le faisait auparavant. Ça a été effectivement la surprise de l'année 2016, avec une autre surprise que certains ont jugé peut-être beaucoup moins sympathique, qui était le cortège de tête, qui était traditionnellement en tête de manifestation. Le cortège était traditionnellement dévolu aux grandes centrales syndicales. Et là, vous vous rappelez que c'est une jeunesse assez virulente, qui parfois s'en est pris violemment à des distributeurs de banques, symboles du capitalisme. On a vu apparaître comme ça, voilà, Nuit Debout, cortège de tête, des choses nouvelles. Là, on est simplement début avril. Il faut simplement être attentif et regarder ce qui va surgir du mouvement social.
Le fait qu'il y ait des revendications très diverses, parce que les situations sont très hétérogènes, est-ce que justement on peut considérer qu'il y a un mouvement social ou bien différents types de mécontentement qui vont finalement de gens qui ont des statuts assez précaires, voire des intellectuels prolétaroïdes comme ce que l'on trouve à l'université, à des gens qui ont un statut. Je vais d'ailleurs vous laisser évoquer le terme de statut, sachant que statut ne veut évidemment pas dire nanti, Manuel Cervera-Marsal.
Oui, mais vous avez entièrement raison de souligner qu'il y a des gens qui ont des statuts tout à fait divers, il y a des gens qui ont des conditions de travail tout à fait divers, et puis ces gens, ils ont des revendications aussi qui sont diverses. Il y en a certains, il s'agit de leur pension de retraite, d'autres tout simplement comme à Carrefour. Plan de sauvegarde de l'emploi qui si on enlève les guillemets, c'est pas sauvegarde, c'est en fait plan de destruction de l'emploi. Donc certains, c'est pour préserver leur emploi, d'autres pour augmenter les salaires, d'autres pour qu'on reconnaisse la pénibilité, d'autres pour l'accès à l'université. Il y a des revendications qui sont extrêmement disparates.
Alors ça, du coup, est-ce que ça peut coaliser ou est-ce que les acteurs sociaux sont condamnés en quelque sorte à se disperser dès lors que leurs luttes sont hétérogènes?
Ça peut coaliser à partir du moment où ces acteurs disparates se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun. Et en l'occurrence, là, ils semblent être en train... Cette idée fait son chemin, hein, doucement. On n'est pas encore dans cette espèce de convergence des luttes qu'un certain nombre, justement, d'étudiants, de travailleurs, de cheminots appellent. Mais c'est vers ça qu'on se dirige, avec cette idée qu'il y a un ennemi commun. Et ce qu'il faut voir, c'est que... Alors, Édouard Philippe, lui, aime pas parler de convergence des luttes, parce qu'il ne faut pas non plus reprendre les termes de l'adversaire. Du coup, il a inventé cette métaphore médicale. Je ne sais pas si c'est la plus belle trouvaille de l'année, mais il parle de coagulation. Voilà, coagulation. Et c'est vrai que depuis trois décennies, si on regarde ce qui se passe en haut de la société au niveau des élites, bah là, on a une sacrée belle coagulation, hein, entre les élites économiques, les élites politiques... Et les élites médiatiques aussi, hein, qui coagulent d'abord à Sciences Po, qui coagulent ensuite à Davos, lors des dîners du siècle, qui coagulent au niveau des valeurs.
Ça, a priori, ça n'est pas une nouveauté.
Non, ça coagule bien, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, cette fois-ci, au socle, à la base de la pyramide sociale, ça commence aussi à se dire, tiens, si en haut ça coagule si bien, peut-être qu'en bas, ça pourrait aussi coaguler, et que dans ce cas-là, on pourrait rééquilibrer un petit peu le rapport de force.
Mais alors, justement, dans... les revendications qui sont évoquées, il est beaucoup question d'État, puisque finalement, l'idée, c'est d'affronter une situation où la concurrence ne serait pas seule juge. Alors ça, par exemple, c'est typiquement ce qui est en cause à la SNCF. Du coup, on est sur un mouvement qui n'est finalement pas si radical que cela, qui serait plutôt social-démocrate.
Ah, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans une phase...
Ça vous plaît pas,
ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans une phase de recul historique. Oui, effectivement, ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui dictent un peu la musique, aujourd'hui, c'est quand même plutôt les néolibéraux. Donc, les mouvements sociaux, c'est pas des mouvements de conquête de nouveaux droits, c'est des mouvements de défense des droits existants, et en l'occurrence, de défense de ce qu'on appelait l'État-providence, l'État social. Mais donc, ça vous fait dire que c'est social-démocrate. Mais en réalité, non, ça va plus loin que ça.
C'était une question, hein.
C'est une question absolument passionnante, parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à Tolbiac, ce qui s'expérimente comme ça, c'est pas juste un blocage, il s'agit de bloquer pour expérimenter de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles façons d'échanger, de nouvelles façons de s'instruire. Et ce qu'on voit là, c'est que on est en train de se passer de l'État à Tolbiac. Il y a beaucoup de références à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pouvez me citer un seul endroit aujourd'hui en France, et en réalité même sur la surface du continent européen, où l'État n'est pas présent? Eh bien, c'est bien le bocage de Notre-Dame-des-Landes, où on expérimente des modes de vie, des modes de culture, de permaculture, des formes de démocratie directe, de fonctionnement au consensus, qui sont complètement hors de la sphère du contrôle de l'État. Il est là peut-être l'élément vraiment utopique et novateur du mouvement social.
Qui est-ce qui vous permet de penser ça? Quelles sont les références qui vous viennent à l'esprit? Parce que d'un côté, on a une forme de culture très anarcho-libertaire lorsque vous parlez donc d'expérimentations telles que celles qui ont lieu à Notre-Dame-des-Landes. De l'autre, on a finalement des revendications qui relèvent de la social-démocratie. Et alors, pour le coup, qui sont les auteurs ou les penseurs qui vous permettent, en quelque sorte, d'analyser cette situation?
Je ne sais pas si vous avez quelqu'un en tête, mais vous savez qu'on est à la fin des deux semaines de procès de Tarnac et que les ouvrages du comité invisible sur l'insurrection qui vient à nos amis.
Exposez-les pour les auditeurs qui ne les connaissent pas.
C'est des ouvrages, si vous voulez, qui sont très influencés par une certaine théorie critique française, du type Foucault, du type Derrida, et qui considèrent effectivement, à la différence de la social-démocratie qui avait tendance à défendre
l'État. Oui, parce que là, on n'est pas du tout, Julien Coupin,
On n'est pas du tout dans la social-démocratie, on est plutôt dans l'idée que l'État-providence, c'est une instance disciplinaire de contrôle de nos subjectivités.
Mais alors, est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? Parce que d'un côté, vous appelez, pas vous nécessairement, mais les grévistes appellent à l'État-providence, on comprend donc qu'ils ne veulent pas de concurrence, et de l'autre, vous faites appel en ce moment à des penseurs qui sont beaucoup plus radicaux que l'État-providence.
Oui, non, il n'y a pas forcément de contradiction, puisqu'il suffit de voir ça en deux temps, tout simplement. Dans un premier temps, on maintient l'État social, et puis dans un deuxième temps, si on réussit comme ça à consolider un peu cette base-là, on pourra essayer d'aller plus loin et d'imaginer un au-delà de l'État et un au-delà du capitalisme.
Et le troisième temps, ça sera à 8h20. Vous serez rejoint, Manuel Cervera-Marzal, par Sophie Binet, qui est co-secrétaire générale adjointe de la CGT des cadres et techniciens. Et je rappelle que vous avez publié « Les nouveaux désobéissants citoyens ou hors-la-loi », c'est aux éditions du Bord de l'eau. Il est 8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez.